Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
On fait une partie, Alex.
Ne formulez pas de vœux. Wishmaster. Priez pour qu'il n'exauce jamais vos souhaits.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin. On va vous parler des dernières lectures qui nous ont enthousiasmés. Alors on va aborder l'ouvrage Le Radiateur, paru chez J.C. Lattès en compagnie de son auteur, hein, Gonzague Pilon. On va parler de deux ouvrages horrifiques aussi. La novélisation du Wishmaster de Peter Atkins par Christian Francis, édité par Faute de Frappe dans sa collection Compact Aurore. Et puis on va aborder Baby Trap 2 de Patrice Orson, ultime numéro de la collection Carnage, disponible chez Zone 52 Édition. Collection sur laquelle nous reviendrons en compagnie de son éditeur, hein, Jérémy Grima. On va causer d'un livre de cinéma aussi, hein, Al Pacino, le grand jeu de Ludovic Girard, donc édité par GM Édition, en partenariat avec Carlotta Film. Et enfin, on fera un petit détour par le 9e art avec La fleur au fusil, paru chez Dargo, une BD de Cédric Mayen au scénario et Cristiano Crescenzi au dessin. L'équipe de Culture Prohibée remercie Eva Hoff, Lucie Mottier, Marc Falvo et Jérémy Grima pour leur aide sur cette émission. Émission qui, nous vous le rappelons, est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur, ecstasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer sortie bouquin, je suis accompagné de mon fidèle acolyte, absolument pas anonyme. Je vais bien sûr parler de Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas.
Bonjour Jérôme et bonjour à toutes nos auditrices lectrices.
Toi, l'ami Thomas, d'ailleurs, puisque tu es venu avec une bande dessinée parue chez Dargo sous le bras, à savoir La fleur au fusil de Cédric Mayen au scénario et Cristiano Crescenzi au dessin.
Oui, La fleur au fusil relate les insurrections des paysans du sud en Italie contre le nouvel ordre instauré par Giuseppe Garibaldi au 19e siècle. Particulièrement injuste envers les plus modestes, ce régime voit se lever des groupes de bandits qui pillent les convois conduits par les chemises rouges, armés de volontaires, lors de la Troisième Guerre d'indépendance italienne. Dans les années 1860, émerge une figure fédératrice en la personne de Michelina di Cesare, une jeune volontaire qui réussit à regrouper les différents groupes de bandits. Le scénariste Cédric Mayen décide de raconter son histoire avec la complicité du dessinateur italien Cristiano Crescenzi. Leur BD emprunte à plusieurs genres, du point de vue historique et réaliste à un traitement qui rappelle les westerns, pour narrer l'émancipation d'une femme au sein d'un monde régi par les hommes. D'abord violée, humiliée, frappée par un mari, on va dire plutôt indélicat, Michelina di Cesare décide de prendre son destin en main. Ainsi, après la mort de son époux, elle forme avec son amant Francesco Guerra un couple de résistants, ivres de liberté, qui ne reculent devant rien pour arriver à leur fin. Un récit truffé de flashbacks permet de mieux cerner le parcours et le caractère de Michelina Di Cesare et met en évidence comment la jeune femme est devenue une icône. Le trait de Cristiano Crescenzi donne dans le réalisme, apporte un soin particulier à la lumière dont les tonalités retranscrivent bien les différentes ambiances pour décrire des superbes paysages baignés du soleil d'Italie ou des attaques de convois, des forts pris d'assaut, des embuscades et autres fusillades. Car ce portrait d'une femme indépendante ne fait pas l'impasse sur la violence et le dessinateur gère un découpage quasi cinématographique pour les scènes d'action. L'histoire l'avait oublié, mais la bande dessinée de Cédric Magnin et Cristiano Crescenzi en un bel hommage animé du souffle romantique de l'épopée donne une seconde vie à cette héroïne, symbole de résistance et de liberté. La fleur au fusil, écrit par Cédric Magnin et mis en image par Cristiano Crescenzi, est publié aux éditions d'Argo.
Assez de 9e art, mon cher Thomas. Moi, je vais te proposer un voyage sans images, mais beaucoup plus gore, beaucoup plus violent, avec Baby Trap 2 de Patrice Hersant. Dernier opus hein, de la collection Carnage, le 15e, qui sera donc le dernier, hein, c'est annoncé, c'est terminé, publié par Zone 52 Éditions. Alors on y retrouve, 3 ans après le premier opus, hein, parce que ça ne s'appelle pas Baby Trap 2 par hasard, il y a eu un premier Baby Trap. On y retrouve donc 3 ans après le premier opus, Jimi Hendrix, ce vieux loser, ex-flic de renom à la Dirty Harry, nommé James Hendrix, devenu l'ombre de lui-même depuis le fiasco de Baby Trap, premier du nom. Il est remis en selle par une nouvelle vague de crimes atroces de chérubins commis à El Paso. Sa némésis, la cruelle Ilsa, mais où Patrice Hersant va-t-il chercher tout cela ? Et de retour pour trucider du môme. Épaulé d'une policière impitoyable du cru, Angelica Muerte, évidemment un nom pareil, ça ne s'invente pas, ça court les rues, il part à la recherche d'Ilsa et de ses sbires, et, accessoirement, de la progéniture d'un milliardaire local. Pas très sérieux, bien sûr. C'est pas du premier degré, preuve en sont les références obligées, hein, en sus des noms évocateurs, les personnages lisent aussi toutes les couleurs du bis, ils lisent aussi érotique bazar. Le livre de Patrice Hersant, dans la grande tradition du roman de gare, gore et craspec se dévore, que dis-je, se déguste d'une seule traite. La faute à une écriture incisive, concise, entraînante, vous l'aurez compris. Nous vous recommandons tout particulièrement ce Baby Trap 2 de Patrice Hersant, paru chez Zone 52 Éditions, qui vient conclure en beauté hein, la collection Carnage, dans un livre vraiment dans l'esprit gore, hein, voilà, l'esprit de la défunte collection gore. Car oui, c'est bien, selon l'éditeur, le tome ultime hein, de la collecte. Alors afin de nous en assurer quand même, parce que nous aussi on enquête à la manière de James Hendrix, on va de suite contacter l'éditeur Jérémy Grima. Donc Jérémy Grima, tout de suite au micro de Culture Prohibée. Nous sommes avec Jérémy Grima, patron de Zone 52 Éditions. Alors Jérémy, tu es de retour dans notre émission pour aborder la fin de la collection Carnage. Alors déjà, je te dis bonjour, excuse-moi.
Eh ben, salut Jérôme, content de pouvoir te parler un peu.
Eh bien oui, et moi aussi. Mais alors j'aurais bien aimé que ce soit pour une autre nouvelle que la conclusion de cette collection, mais c'est normal, à la limite, j'ai envie de te dire que tu viennes en parler dans notre émission, parce que tu étais venu dans notre émission en 2021, lors du lancement du premier volume, Sanction, signé d'un certain Talion.
Talion, ouais.
Exactement, et quel regard du coup tu portes aujourd'hui sur cette collection qui s'arrête, hein, puisque c'est le tome de Baby Trap 2, c'est le dernier volume de la collection Carnage.
Oui, voilà, c'est le tome 15 qui sonne. Alors, peut-être pas l'arrêt définitif, mais au moins une longue pause pour la collection. Bah, écoute, quel regard. Déjà, une certaine fierté, on peut le dire, hein, ne soyons pas modestes. Non, bah, je suis content de cette collection de bouquins parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire, en fait, tout simplement. Je pense, du moins, j'ai essayé et je pense avoir pas tapé trop loin de l'envie principal qui m'avait fait commencer la collection il y a 3 ans et demi, 4 ans, c'est-à-dire que proposer 15 bouquins qui sont au final très différents les uns des autres, tout en restant dans la case évidemment gore, porno-gore pour certains, mais en tout cas, petit bouquin d'horreur, quoi, hein, un petit peu saignant, et une certaine fierté d'être arrivé à proposer des bouquins qui sont, moi je trouve, complémentaires, et puis surtout dans une grande variété de styles, quoi, hein. C'est vraiment le cahier des charges que je m'étais fixé dès le début et puis qui a été je pense respecté jusque là, quoi. Ce qui est une cause aussi de l'arrêt, hein, de la collection.
D'ailleurs, oui, c'est comment dire, au départ, quand tu lances la collection, soyons clairs, est-ce que tu penses que l'engouement va être tel, parce que c'est une collection qui a rencontré un bon succès, et est-ce que tu penses que ça va durer aussi longtemps que ça, en fait ?
Si tu veux, dès le début, alors l'engouement, c'était pas ma priorité principale, dans le sens où évidemment il faut vendre des livres pour pouvoir avoir le budget de sortir les suivants, puis évidemment si t'as 5 lecteurs, au bout d'un moment tu te poses certainement la question de savoir si tout ça a un sens. En revanche, dès le début, ce qui était clair, c'est que c'était un projet qui allait avoir une fin. Et ça s'est réalisé parce que je savais pertinemment, en commençant la collection, que je ne pourrais pas tenir 50 ou 60 tomes en ayant toujours ce renouveau systématique de genre, de ton, de style littéraire que je voulais vraiment depuis le début. Donc je voyais ça de toute façon comme une collection assez éphémère, pour pouvoir proposer vraiment des choses différentes, si tu veux. Donc oui, c'était très vite, dès le tome 2 ou tome 3, j'ai décidé de mettre un stop sur le 15, voire le 20. Il a été question pendant un moment que je pousse jusqu'à 20 tomes. Donc oui. Et puis il y avait autre chose aussi, j'avais un petit peu conscience dès le départ de la légère lassitude qu'il pourrait y avoir au bout de 15 tomes, quoi. Alors, vis-à-vis des lecteurs qui peuvent se lasser aussi, toujours pareil, hein, de lire un peu tout le temps la même chose, parce qu'on est quand même dans une case très codée, très bordée, quoi. Et puis ma propre lassitude de plus avoir le même œil et la même appétence pour sortir des bouquins qui me fassent vraiment, qui me plaisent énormément, si tu veux, tu vois, de me mettre un peu en pilotage automatique. Donc oui, dès le départ, j'étais tout à fait conscient. Alors il y a eu des périodes pendant lesquelles je me suis vraiment posé les questions, est-ce que je continue ou pas ? Et finalement, peut-être que je peux en sortir 200, mais c'est vrai que l'idée principale, c'était de toute façon de mettre un terme à la collection au bout de 15, 20 tomes grand maximum, quoi.
Alors, tu nous as expliqué, hein, tout à l'heure que justement tu as arrêté cette collection parce que tu avais l'impression d'avoir réussi ton pari, en fait, hein. Elle ressemble, comment dire, en tout cas concrètement, à ce que tu imaginais en la lançant. Donc dès le départ, tu avais prévu, en fait, que cette collection allait avoir, donc il y a des auteurs récurrents, hein, c'est-à-dire David Didlot, Patrice Hersant, Zaroff.
Zaroff,
qu'on a fait plusieurs, même si c'était sous des pseudos différents. Mais il y a aussi des plumes singulières. Moi, je pense à Thierry Poncet, Christophe Siebert, et des femmes, ce qui n'est pas si fréquent que ça dans les collections gore, Élodie Denis, Violaine de Charnage. Quel regard portes-tu, toi, sur cette collection qui peut sembler, comme ça, là, quand j'en parle, en fin de compte, assez hétérogène ?
C'était le but, hein. Comme je te le disais juste avant, je voulais vraiment proposer des choses différentes. C'est-à-dire, tu vois, quand tu parles du regard et puis de la fierté que je peux avoir, c'est de voir que d'un tome à l'autre, j'ai pu sortir un Urbs de Guy Carmen, qui est en fait Zaroff, hein. Et après, donc, qui est quelque chose de très classique, de très série B, très, très porno, très gore, enfin vraiment pile dans ce qu'on attend finalement d'un roman comme un descendant de la collection Gore. Et tout de suite après, pouvoir sortir un Vive le feu de Christophe Siébert, qui est une autre exigence littéraire, qui est quelque chose de plus littéraire, où on va passer beaucoup plus par le non-dit, qui est une sorte de roman romantique singulier et caché. En fait, il faut vraiment gratter la couche de crasse sous ce roman pour avoir accès à la poésie, finalement, qu'est la sienne. Donc, on a vraiment deux romans qui ne sont pas antinomiques, qui sont pour moi complémentaires, mais qui sont vraiment différents. Donc, c'était vraiment une volonté de ma part. Et comme tu dis, donc il y a eu vraiment des plumes différentes, des personnalités différentes. Tu fais très bien de citer Thierry Poncet. Alors les deux filles, oui. Alors après, bon, le côté est-ce que les filles écrivent différemment des garçons, je suis pas vraiment persuadé, mais je suis quand même content que les femmes soient représentées dans la collection aussi, parce que voilà, pour une question de parité. Et puis je suis content parce que c'est, comme tu le soulignes, c'est relativement rare finalement dans cette case de l'horreur et du gore d'avoir des femmes. Donc je suis très content d'en avoir deux, avoir eu deux auteurs, eux, dans la collection. Et donc, c'est une fierté. Justement, c'était vraiment quelque chose de très assumé dès le début, une vraie volonté de ma part, encore une fois, de proposer de surprendre le lecteur de tome en tome, si tu veux, avec ce que ça comporte comme réactions diverses et variées, hein. Il y en a qui ont détesté certains tomes puisqu'on sortait un petit peu de l'attente, encore une fois, de ce que tu peux attendre d'un roman gore. Il y en a d'autres à qui ça a énormément plu. En tout cas, moi, j'en suis extrêmement content. Et encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul et je me dis que je préfère arrêter maintenant parce que j'ai peur de plus pouvoir proposer cette grande variété, parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup de recherche, beaucoup de prise de tête pour arriver à une cohérence. Moi, c'est pas mon métier, hein, je fais pas ça H24, donc voilà, je pense que c'est une bonne chose d'avoir déjà réussi à proposer, je pense, 15 tomes aussi variés. Je suis pas sûr qu'on puisse en proposer 50 sans perdre de vue, tu vois, sans tomber dans la redondance, quoi, en fait. Hein.
Alors, tu le disais à l'instant, effectivement, la collection s'arrête. Tu nous as très bien expliqué pourquoi. Mais derrière la collection Carnage, il y a Zone 52 édition. Alors, Zone 52 édition qui va perdurer. Hein, est-ce que là, tu peux nous parler un peu de l'avenir de Zone 52 édition et puis des projets, parce qu'il y a aussi un podcast à Zone 52, je ne l'ai pas dit aussi. Il y a pas mal de choses. En fait, c'est un multivers en soi, Zone 52.
Puis Zone 52 existe depuis très longtemps, parce qu'avant, je sortais et j'écrivais des livres sur le métal, hein, dont Enjoy the Violence, qui a une super bonne carrière. Bah, écoute, Zone 52 aujourd'hui, donc oui, c'est un podcast mensuel qui traite de culture pop, hein, ciné, bouquins, jeux vidéo, musique. Donc le podcast est toujours enregistré une fois par mois, l'équipe ne bouge pas, ça fait 8 ans, hein, qu'on fait ça, on va bientôt enregistrer l'épisode numéro 100 là, dans une poignée de mois. Donc c'est une affaire qui roule. Point de vue édition, je trouve que je vais faire une petite pause, moi, parce que c'est vrai que ça fait 10 ans que j'enchaîne les sorties, donc les bouquins sur le métal et la musique, ensuite mes propres romans, des romans d'auteurs que j'aimais bien, puis la collection Carnage, qui a occasionné quand même un travail super intensif, hein, pendant 3 ans et demi, 4 ans, ça a occupé une grande partie de mon temps. Donc pour l'instant, c'est la première fois depuis 10 ans qu'il n'y a pas de projet en cours, pour le moment, tout de suite. Et j'ai envie de dire que c'est tant mieux et que ça peut bouger d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que là, depuis 10 ans, j'avais toujours quelque chose qui était prévu quand quelque chose était sur le point de se terminer. C'est-à-dire que dès qu'un bouquin était écrit ou qu'il était sorti, il y avait deux projets qui attendaient derrière et qui commençaient à être travaillés. Là, c'est la première fois que je me paye le luxe de pouvoir m'asseoir un peu et de réellement décider de ce que je vais faire après. Donc c'est une petite phase de transition. Après, je sais pas. Pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Il y aura peut-être rien rien du tout. Peut-être que je ferai du jardinage et que je me mettrai enfin à regarder les 100 000 films que j'ai en retard et les 100 000 bouquins que j'ai à lire. Peut-être que demain, un nouveau projet va sortir d'un chapeau, qui va extrêmement me motiver et puis qu'on va être reparti. Et c'est valable aussi pour la collection Carmage, c'est-à-dire que je ne ferme pas définitivement la porte. Il suffit qu'une envie soit rejaillisse, que le manuscrit bénit, parce que j'en ai des manuscrits qui sont bons en plus, qui sont de côté. J'aurais pu tenir, j'aurais pu encore sortir 2-3 tomes, je m'arrête à 15 pour avoir un chiffre rond, si tu veux, si tenter que 15 soit un nombre rond. Voilà, on n'est pas à l'abri de, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, ou peut-être 2 mois, j'en sais rien, qu'il y ait une petite surprise et qu'il y ait un tome qui sorte. En tout cas, pour l'instant, le maître mot, c'est justement de me poser un peu et puis de choisir exactement ce qui va se passer pour la suite.
Bah écoute, Jérémy Grimand, on te remercie énormément. On rappelle que tu es le patron de Zone 52 Édition et que tu étais avec nous aujourd'hui pour nous parler de la fin, alors temporaire, définitive, le doute plane de la collection Carnage, avec là en l'occurrence le 15e tome Baby Trap 2 de Patrice Hersan. Écoutez Culture Prohibée spéciale sortie bouquin. Nous venons donc d'écouter Jérémy Grimand, patron de Zone 52 Édition, qui revenait sur la fin de la collection Carnage, dont l'ultime volume, le 16e, est Baby Trap 2 de Patrice Hersan, disponible dans notre boutique en ligne, hein, lesfilmsdelagorgone.fr. Heureusement, quand certaines collections s'arrêtent, d'autres naissent. Il y a peu, nous avions abordé le tome 1 de la collection Compact Aurore chez Faute de Frappe. C'était La Nuit des Morts-Vivants de John Rousseau, la novélisation, hein, que Marc Falvo nous envoie déjà un deuxième opus, hein, dans sa collection. Et oui, il est très très productif, Marc Falvo. Tout autant recommandable. Alors à savoir donc la novélisation de Wishmaster, hein, un scénario de Peter Atkins qui est novélisé par Christian Francis. Alors qu'est-ce que c'est que Wishmaster? Pour ceux qui n'auraient pas vu donc le film de Robert Kurtzman, hein, le spécialiste des effets spéciaux. D'ailleurs, c'est plutôt un film où il essaye de mettre en valeur tout son savoir-faire en termes d'effets spéciaux, même si certains passages ont quand même un poil vieilli. C'est un film qui nous parle d'une créature mythique, le djinn, qui est tiré de son sommeil millénaire et pour assouvir sa soif de pouvoir éternel, doit convaincre une personne de faire 3 vœux. Et seule la réalisation du 3e souhait lui permet d'acquérir les forces démoniaques nécessaires à l'accomplissement de ses maléfiques desseins. Tremblez, tremblez, pauvres humains. Alors, il y a une jeune femme, hein, qui va le réveiller. Elle étudie les légendes, les mythes liés aux anciennes civilisations. Elle va pas tarder à découvrir en fait la véritable nature de ce sinistre monstre et également le danger qu'elle fait peser par son action sur l'humanité. Alors cette cette novélisation du scénario de Peter Atkins est, n'ayons pas peur des mots, hein, bien meilleur que le film en fait, hein, bien plus sympathique que le film, que je trouve est un petit film. Hein, c'est pas ce que j'ai vu de mieux, ça doit être produit par Wes Craven. Voilà, là on sent, alors Christian Francis, c'est plutôt un spécialiste hein, de ce type d'écriture, il a fait des comics, tout ça, et puis il a fait beaucoup de choses, et on sent un grand sens de l'efficacité, on sent le fan de Clive Barker en fait, hein, parce qu'il va nous donner à voir des images de corps suppliciés, de chair déformée, là on n'est pas du tout pris par le budget du film en fait, donc on va voyager dans le temps, on va partir plusieurs millénaires en arrière, il se passe plein de choses. On va composer, en fait, enfin, surtout Christian Francis va composer des tableaux baroques et avec certaines visions qui vont être dignes de l'enfer de Dante, en vérité. Hein, et en fait, tout cela va faire travailler à bon escient l'imaginaire du lecteur. Et puis les personnages sont plus intéressants, plus développés. Et là, je pense en particulier à l'héroïne Alex, avec sa sœur aussi d'ailleurs, qui forme un duo fort sympathique, des personnages plus captivants que ce qu'on peut voir dans le film. Et puis surtout, on rentre vraiment dans la tête du Jean, quoi. C'est-à-dire que, pour peu qu'il ait une tête, et on se demande toujours quel pire supplice il va pouvoir faire subir aux humains... en essayant de tirer le pire d'eux-mêmes, en vérité. C'est ça, son job, ce djinn. Je fais des allitérations maintenant, c'est incroyable. En fait, alors, évidemment, ça ne va pas bouleverser la littérature, hein, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on demande à ce type de collection. Ce Wishmaster de Christian Francis, disponible aux éditions Faute de Frappe, dans la collection Compact Aurore, est un livre modeste, mais c'est un livre modeste fort sympathique, c'est-à-dire qu'on passe un bon moment, ça se lit d'une traite, il est beaucoup plus épais d'ailleurs que La Nuit des Morts-Vivants, mais j'étais assez étonné, parce que La Nuit des Morts-Vivants, c'est un peu un page-turner avec des chapitres très courts et tout, là, ces chapitres sont plus longs, tout ça, mais on se laisse complètement prendre par l'histoire, qui est très agréable, et puis qui se lit comme ça, sans déplaisir, et on se surprend même à être... Bon, un peu triste quand ça se termine, parce qu'en fin de compte, on a passé un bon moment en compagnie de ce djinn, qui est un personnage absolument pas sympathique, et c'est tant mieux. De la novélisation de film au grand cinéma, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement pour vous causer d'un livre paru chez GM Éditions, en partenariat avec Carlotta Film, Al Pacino, Le Grand Jeu. Alors, c'est l'édition augmentée, en fait, d'un ouvrage signé Ludovic Girard. Il est critique de cinéma, il est cinéaste. On peut le lire dans son film, par exemple, Ludovic Girard. Et là, il consacre un ouvrage à l'immense Al Pacino, acteur mythique, hein, sans doute l'un des tout meilleurs de sa génération, si ce n'est le meilleur. Je dois bien vous avouer qu'en fait, moi, je suis dans la team Pacino, j'ai toujours préféré Pacino à De Niro, mais bon... Je trouve plus subtil, mais je m'attirais des ennuis si je dis ça, je vais m'attirer des ennuis. Moi, personnellement, je ne me suis jamais remis de la scène hein, durant laquelle il baisse la tête lorsqu'il passe sous un pont en conduisant sa voiture dans Heat. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, pour le cinéphile fou que je suis, ça veut dire énormément de choses. Je trouve que c'est un acteur absolument unique et dans cet ouvrage, qui est le plus complet hein, sur l'acteur... Hein, peut-être bien d'ailleurs tout pays confondu. J'ai lu plusieurs choses sur Pacino. Je pense que là, c'est vraiment très complet. Ludovic Girard, en fait, décortique la vie d'Al Pacino. Donc, il y a 7 chapitres. Alors, on découvre la vie de cet enfant new-yorkais qui vient d'une famille un peu disloquée, famille italo-américaine, qui vit dans le quartier du South Bronx, qui n'est pas une famille aisée, hein, loin de là. On découvre évidemment les films qui ont forgé sa légende. Hein, Scarface, la trilogie du Parrain, voilà. On découvre, ça c'est intéressant, son parcours théâtral, sa traversée du désert dans les années 80. Et puis ses films autoproduits, parce qu'il a autoproduit des films. Puis évidemment, ses rapports compliqués avec l'alcool, je crois que c'est un secret de Polichinelle. Et bien sûr, bah, on revient sur quelques aspects hein, liés à la légende, liés au monstre, à l'image de sa relation avec Friedkin avant, pendant et après le tournage de Cruising. Mais aussi, on peut lire dans ce livre des choses sur des grands films quand même tombés dans l'oubli, enfin des grands films, en tout cas des films très intéressants tombés dans l'oubli. Je parle par exemple de Bobby Deerfield de Sidney Pollack. Alors c'est pour tous les fans du grand Al Pacino, c'est un livre indispensable. Ça s'appelle Al Pacino, le grand jeu. C'est signé Ludovic Girard. C'est édité par GM Éditions en partenariat avec Carlotta Film. Vous écoutez Culture Prune. Cher Thomas, assez parlé cinéma. Je propose que nous revenions à la fiction en ta compagnie avec Le Radiateur de Gonzague Pilon, paru chez J.C. Lattès.
Eh oui, ça va chauffer là, hein ? On rigole plus. Prenez un peu d'essence de Jack Kerouac, quelques vieilles pierres d'un monastère issu d'un roman d'Umberto Eco, quelques formules que n'aurait pas renié John Fante, une vision sociale non misérabiliste et vous obtenez Le Radiateur, le premier roman de Gonzague Pilon. Un road trip qui part d'Amiens jusque dans les monastères de la Haute-Savoie et qui suit Michel et José, deux grands amis. Le premier est plaqué par sa petite amie et se trouve être un relieur au chômage et croule sous les dettes. Le second deal du cannabis pour subvenir aux besoins de sa famille. Il est particulièrement préoccupé par le parcours de sa petite sœur qu'il aimerait voir réussir dans ses études. Alors qu'il l'accompagne dans ce cadre dans des monastères en Haute-Savoie, il découvre de vieux livres laissés à l'abandon dans des placards. Pensant qu'ils peuvent valoir une fortune, José propose à Michel d'aller les sauver de l'oubli afin de les restaurer et de les revendre. Et voilà les deux compères qui partent sur les routes au volant d'un vieux Renault Trafic. L'aventure ne sera pas de tout repos et les deux amis vont ainsi se découvrir une autre facette d'eux-mêmes. Le Radiateur s'attache à évoquer ceux que la société, bien comme il faut, laisse sur le bas-côté, des marginalisés, de ceux qui ne rentrent pas dans le moule, à qui on refuse toute forme de représentation ou seulement par l'intermédiaire de clichés dans les médias. Gonzague Pilon signe un roman à la fois drôle et tendre, léger et dramatique, sur l'amitié, la solidarité, l'envie d'évasion que procurent les voyages, mais aussi les livres. Avec son personnage qui est restaurateur de vieux livres, Gonzague Pillon, qui est aussi bouquiniste et écrivain, interroge le pouvoir des livres, la mémoire dont ils sont garants. Mais son roman réfléchit aussi sur le langage et son évolution. L'auteur mélange langage parlé et style plus littéraire, écrit avec humour, le livre étant parsemé de formules de dialogue qui font mouche. Si certains passages sont traités avec une certaine dérision, d'autres s'avèrent plus réalistes quand il s'agit de décrire une société violente, qu'elle le soit sur les plans administratifs, sociaux ou physiques. Pourtant, Le Radiateur se révèle un livre humaniste et évite d'être cliché et manichéen quand il s'agit de poser des personnages. À partir d'un ou deux détails, Gonzague Pillon réussit à donner toute sa dimension humaine à un personnage, lui évitant alors de tomber dans des lieux communs. Cela n'empêche pas Le Radiateur de proposer des passages plus durs que d'autres, de dépeindre des personnages impitoyables dans des situations particulièrement rudes. Cependant, Gonzague Pillon ne dévie jamais de la route qu'il s'est tracée, garde le même style, sait adapter le ton du roman. Un roman qui se lit avec plaisir et dont on lâche la lecture avec difficulté. Cet amour pour les inadaptés, les insignifiants, les décalés, s'explique certainement par les origines modestes de Gonzague Pillon. Fils d'un boucher amiénois, il passe par la fac de sociaux avant de se découvrir une passion pour la randonnée. Dans le Massif central, il s'achète un vieux Renault Trafic de 1984 qui devient son compagnon de route et qui lui permet aussi de se livrer au métier de bouquiniste. Ainsi, le fourgon devient l'un des personnages principaux de son premier roman. Et pour parler de ce roman intitulé « Le Radiateur » et publié aux éditions J.C. Lattès, qui mieux que Gonzague Pillon, qui avant d'écrire des romans faisait partie du groupe de métal Witness.
Tout de suite, Gonzague Pillon au micro de Culture Prohibée.
Gonzague Pillon, vous êtes l'auteur du Radiateur, mais avant cela, vous étiez musicien, chanteur dans un groupe de métal qui s'appelle Witness. Donc vous étiez déjà dans l'écriture, hein, vous écriviez pour ce groupe Witness. Comment passe-t-on de l'écriture de parolier pour des chansons à un romancier ?
C'est pas le même exercice, c'est certain. Le format court permet beaucoup de choses au niveau des paroles d'un groupe. Il permet d'aller droit au but. Par contre, il empêche de développer des personnages, il empêche de faire vraiment une fiction, en fait. C'est vraiment plus une revendication. Le passage de l'un à l'autre, il s'est fait naturellement puisque j'ai dû arrêter pour des raisons de santé le métal. J'ai eu des acouphènes. Et j'ai libéré pas mal de temps. J'écrivais déjà auparavant des nouvelles et je faisais des concours de nouvelles. Donc, j'étais déjà un petit peu dans l'écriture de fiction. Et le fait d'arrêter d'être parolier, j'ai consacré tout mon temps à l'écriture de fiction, pour le coup.
Parolier, je suppose. En plus, vous écriviez... Alors, c'est en anglais, hein, si je ne me trompe pas, hein, les paroles de Witness. Vous écriviez en anglais. Alors, comment peut-on passer de l'écriture du français à l'anglais ? Quel exercice c'est et qu'est-ce que ça vous a appris ?
Alors, ça m'a... En termes d'écriture, je dirais que je ne pense pas que ça m'ait appris à écrire à proprement parler. Disons que ça me permettait de porter un message, d'exprimer un malaise que je ressens. Enfin voilà, on ne fait pas du death metal par hasard. Hein. C'est en général parce qu'on se sent en décalage avec le monde qui nous entoure. Et le fait de porter un message en même temps qu'on se défoule dans un micro, en fait, c'était vraiment pour moi un exutoire. En termes d'écriture, non, ça m'a pas, j'ai pas appris vraiment. Enfin, ça m'a pas apporté grand-chose par rapport à pour la narration, on va dire. Le message, le malaise que je ressens, il était déjà présent au métal. Il était toujours présent une fois que j'ai arrêté le métal. J'ai juste changé de média en fait en passant d'un format court pamphlétaire à un format long fictionnel pour le coup.
Alors vous parliez de décalage et de malaise. Votre roman, Gonzague Pillon, parle justement de deux personnages qui sont un peu plutôt marginaux, marginalisés dans la société dans laquelle ils évoluent. Comment sont nés ces personnages ?
José, c'est donc le personnage un peu bad boy. C'est le dealer du quartier Nord. Voilà, c'est un mélange un petit peu de différentes personnes réelles que j'ai pu côtoyer par le passé et qui a de la gouaille, qui a le parler des quartiers, c'est vraiment un assemblage de différentes personnes que j'ai pu rencontrer, que ce soit dans le milieu rap, dans le milieu punk aussi, Et c'est quelqu'un, lui, qui est, c'est pareil, qui a fréquenté beaucoup de milieux. Donc voilà, c'est vraiment un assemblage. Michel, c'est pareil, c'est une création. Je me suis un petit peu inspiré de mon cas que j'ai repris à l'inverse. Savoir que Michel, il avait un métier qu'il aimait. Il s'est passé un petit peu les chaînes tout seul pour rentrer dans le système, se mettre avec sa femme, avoir un salaire qui rentrait régulièrement. Donc, il a troqué un métier qu'il aimait pour un métier qui lui plaisait beaucoup moins. Moi, j'ai fait un peu le parcours inverse. C'est-à-dire que j'avais un métier qui ne me plaisait pas du tout. J'écrivais en parallèle. Je sais qu'on ne peut pas vivre de l'écriture en tant qu'amateur. Donc, j'ai tenté, en fait, d'arrêter de faire ce métier qui ne me plaisait pas pour faire bouquiniste et essayer de vivre des livres, qui est vraiment ma passion pour le coup. Et ça n'a pas... Michel, pour le coup, retranscrit en partie l'épisode de ma vie où je suis passé bouquiniste. Donc, trouver un camion, trouver des livres... les vendre sur les marchés, partager sa passion. Il y a une partie en fait de moi dans Michel, alors que José est quand même beaucoup plus composé.
J'en reviens un peu au fait que vous étiez parolier, vous écriviez en anglais, et puis le fait que vous répétiez à Cité Carter. Est-ce que le fait d'écrire en anglais des paroles de chansons et puis de passer au roman, est-ce que ça vous a appris à triturer la langue, parce que votre roman justement triture un peu la langue française?
C'est pas exactement, je dirais pas ça, non, je dirais pas que ça m'a appris à triturer la langue, oui et non, c'est vraiment complètement différent. Quand on a un texte, je parle là pour le métal, pour le coup, pour la musique de manière générale. Ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on avait un débit, on avait un flow, et il fallait se débrouiller pour faire rentrer le message qu'on voulait faire passer dans le flow en question. Donc, il fallait faire... On prenait de la métrique, on prenait le nombre de syllabes qu'on avait sur le flow qu'on avait initialement, et on faisait des phrases avec le nombre de syllabes correspondait en fait. Donc oui, si, il y avait du triturage de langage, mais comme vous le dites, c'est en anglais. Donc c'est pas en ça que j'ai appris à triturer le langage, puisque la gouaille de José et le langage de Mitch, c'est vraiment plus dans l'esprit un petit peu bref de comptoir, c'est-à-dire que c'est vraiment des phrases que j'ai entendues ça et là, des parlers argotiques que j'ai retranscrits, du louchébème, différentes façons de s'exprimer de la rue, que moi, personnellement, j'adore et que j'ai voulu retranscrire. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment travaillé. C'est plutôt quelque chose que j'ai essayé de reproduire. Pour le coup, il n'y a pas d'invention de langage. C'est vraiment de la reproduction de langage.
On a vu, là, ces derniers temps, il y a eu des polémiques. Je vois des réactions par rapport au film Vermine qui se passe dans une cité, à Noisy-le-Sec, pour ne pas la citer. Et aussi la polémique autour d'Aya Nakamura, où on reproche... au dialogue de ce film ou aux paroles de cet artiste, le fait de ne pas s'exprimer bien français, enfin, il y a quand même une sorte de jugement, de mépris de classe par rapport à ça. Est-ce que c'était important pour vous, justement, de donner la parole à des gens qui sont marginalisés, qui ne parlent pas forcément ce que l'on appelle un bon français?
Bien sûr. Je pense qu'il y a toujours eu une volonté par la langue de créer des classes. Quelqu'un qui a grandi dans les banlieues comme José n'a pas eu accès aux livres comme Michel a pu y avoir accès. Par conséquent, son langage, il s'en sent. Dans les différents dialogues, il y a des fautes de français, il y a des fautes de syntaxe que José fait et qui sont la conséquence de ce manque d'accès à l'éducation. Et cela étant, ça ne l'empêche en rien d'avoir un schéma de pensée qui lui est propre, d'avoir sa propre philosophie et d'être particulièrement intelligent. C'est quelqu'un qui... José, pour le coup, je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit très très bien, qui a sa propre logique, son propre système de pensée, mais qui n'est pas dans la régurgitation de ce qu'on peut entendre régulièrement, de ceux qui regardent le 20h et qui ne font que répéter le lendemain au boulot ou entre potes ce qu'ils ont entendu. Il a vraiment son propre, sa propre pensée, qui est une vraie pensée. C'est simplement la manière de l'amener, donc le langage, qui est un peu différente. Et pour ma part, je trouve... qui m'intéresse, en tout cas. Je trouve que le parler des banlieues est quelque chose de super intéressant.
Gonzague Pilon, vous êtes l'auteur du Radiateur. Et c'est un livre qui parle de livres. Justement, il y a ce paradoxe hein, entre des livres anciens avec un ancien français ou un français plus soutenu et ces personnages qui parlent, le langage de la rue, de la vie de tous les jours. Et je crois savoir que ce livre s'inspire d'un fait réel. Que pouvez-vous nous dire de plus à ce propos ?
Alors, je fais pas mal de randonnées et au cours de l'une de mes randonnées dans les Vosges, au Mont-Saint-Odile, j'ai entendu effectivement parler d'un fait divers qui avait eu lieu dans les années, fin des années 2000, je crois, 2000-2010. C'était un vol de manuscrits rares qui a eu lieu donc, dans l'abbaye du Mont-Saint-Odile. C'est un passionné de livres qui voyait que les ouvrages se délitaient, en tout cas qu'il n'y avait aucun entretien sur les livres, et qui s'est décidé en fait à les rénover lui-même, à les restaurer lui-même. Donc il avait trouvé un petit passage dans l'abbaye qui lui permettait d'accéder, quand les portes étaient fermées, d'accéder à la bibliothèque. Et en fait, je crois qu'il rentrait le vendredi, le samedi plutôt, dans l'abbaye. Il y passait le dimanche caché en mettant les livres de côté. Il ressortait le lundi, en fait, et plus tard dans la semaine, il venait récupérer les ouvrages. Il en a, comme ça, subtilisé une centaine avant que les moines ne se rendent compte, les moines et la gendarmerie surtout, ne se rendent compte qu'il y avait du vol de livres.
Écoutez Gonzague Pilon, auteur de Le Radiateur, paru chez J.C. Lattès, au micro de Culture Prohibée.
Le Radiateur, c'est aussi un livre où on rit. Hein. Il y a des formules, il y a une façon de d'écrire qui est parfois drôle. Mais c'est aussi un livre qui peut s'avérer parfois violent. Et je pense notamment à toute cette partie qui se passe en maison d'arrêt. Comment, qui semble assez réaliste, comment vous en êtes venu à écrire justement cette partie ? Est-ce que vous vous êtes renseigné ? Vous avez rencontré des anciens détenus ou comment vous avez fait ça ?
Par le passé, j'ai rencontré d'anciens détenus, mais ce n'est pas avec eux que j'ai parlé de ça. On ne parle pas de ce genre d'événement avec les gens qui y sont passés. Enfin, en tout cas, je n'ai aucune légitimité pour le faire. Et je ne me serais pas permis d'aborder ce genre d'événement avec eux. Cela étant, le système carcéral et de manière générale, l'enfermement sont des thématiques qui me fascinent. Même les thématiques d'asile. J'ai terminé récemment le bouquin « Vol au-dessus d'un nid de coucou » qui parle justement de l'enfermement, mais ce coup-ci dans un milieu censé être médicalisé. Et effectivement, les thématiques de l'enfermement social m'ont toujours passionné. Et pour le coup, j'ai lu sur le sujet. J'ai commencé Foucault notamment. Et puis, j'ai aussi pas mal regardé de reportages sur la prison. Enfin, tout le monde le dit, mais je pense qu'il est bon quand même de le répéter. Quand on voit l'état des prisons en France, on se dit qu'il y a un problème. Enfin, voilà, il y a sûrement autre chose à faire que ce qu'on fait actuellement, qui est juste en gros d'agrandir les prisons. Et plus on agrandit les prisons, en fait, plus en fait il y a de prisonniers. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui déconne à ce niveau-là. Et les conditions en tant que telles d'incarcération, elles sont terribles. Et voilà, ça m'intéressait. Alors, il y avait aussi le côté enfermement psychologique qui m'intéressait. Et comment, en fait, José va se servir de la philosophie, un petit peu de comment Michel l'a imprégné de la philosophie pour l'aider à se sortir de ce genre d'épreuve. Donc, il y avait aussi ce côté-là qui m'intéressait. C'est à la fois l'enfermement symbolique et l'enfermement réel. Et la philosophie va l'aider à sortir de là par le mental. D'ailleurs, la première restauration de Michel, ça raconte un petit peu l'histoire de José. Ça s'appelle « La consolation de philosophie ». Ça a été écrit par Boès au 6e siècle de mémoire. Et ça raconte exactement ça. C'était un homme politique romain qui s'est retrouvé enfermé, qui a tout perdu et qui a écrit son bouquin « Consolation de philosophie » alors qu'il était enfermé pour justement s'échapper de l'atrocité de son réel.
Alors vous parliez d'enfermement psychologique. Justement, Le Radiateur, c'est aussi un livre sur la solitude. Ce sont des solitudes qui se rencontrent.
En partie. Il y a de ça. Il y a Michel qui, au départ, quand on commence l'histoire, effectivement, il est au fond du trou, il ne voit personne, sa femme l'a quitté, il n'a plus de boulot, donc il est vraiment complètement isolé. Et on a José qui, alors lui, est très entouré, mais cela étant, est assez peu compris. Justement, sa violence l'isole un petit peu, et il a tendance à se replier un petit peu sur lui-même, jusqu'à ce passage que vous évoquiez, donc ce passage carcéral, où là, il se retrouve complètement isolé du monde. Mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit... Enfin, la solitude n'est pas la thématique principale. Il y a vraiment deux thématiques, je pense, qui sous-tendent le récit, qui sont pour moi l'amitié, le voyage, et un troisième qui est, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui est un petit peu la philosophie, voilà, avec plusieurs clins d'œil, donc avec Michel Dubiran, c'était le nom d'un philosophe. Il y a La Consolation de philosophie, qui est un ouvrage de philosophie, un des premiers ouvrages de philosophie, bon, même si c'est de la scolastique, c'est la philosophie matinée de religion, mais ça reste de la philosophie. Et puis voilà, toutes les discussions qu'ils ont, on sent toujours les références de philosophie de Mitch, quand ils discutent notamment sur la religion. On sent que Mitch en a beaucoup lu. Et ils ont une manière de dialoguer qui rappelle un petit peu la dialectique, où on a le pour, le contre, et ils essaient de faire une synthèse de tout ça. Donc il y a aussi la troisième thématique qui est la philosophie.
Gonzague Pilon, quelles sont vos influences littéraires, ou même autres que littéraires, qui vous ont aidé à écrire Le Radiateur ?
Pour Le Radiateur, il y a une manière générale, dans ma façon d'écrire, il y a eu un auteur qui a vraiment été important, c'est Laurent Chalumeau, qui a écrit notamment Kif, qui est, pour ma part, l'ouvrage que je préfère. C'est... Voilà, pour resituer le personnage, c'est celui qui écrivait les dialogues de José García et de Cohn quand ils étaient sur Canal+. Je crois que c'était dans Nulle part ailleurs. Donc, il y a une façon de, d'écrire avec pas mal d'humour et surtout de rester fidèle au personnage et de, voilà, en se moquant un petit peu des conventions. C'est-à-dire, on écrit comme on parle. Quand j'ai lu Kif la première fois, je me souviens que je me suis dit, mais... On a le droit de faire ça. Et en fait, oui, on a le droit de le faire, puisque ça se lit très bien et ça ne dessert pas le récit du tout. Au contraire, ça le sert, ça aide à rester fidèle au personnage et à rester authentique. Et ça a été vraiment une influence très importante pour moi, même cardinale pour le coup. Après, les autres influences en littérature française, j'adore Michel Houellebecq, qui est... écrit des satires merveilleuses sur notre société. Il a une façon de le faire, c'est pareil, avec un certain détachement, une certaine lassitude, un côté blasé et beaucoup d'humour, je trouve, qui me plaise énormément. Ensuite, littérature américaine, j'ai beaucoup lu Stephen King. C'est par contre, j'ai pour m'y être confronté, c'est très très difficile d'écrire des histoires qui, dans le thème de l'horreur, qui soient efficaces. Souvent on a tendance à rire quand on se relit. C'est vraiment très très difficile d'écrire des bouquins qui font peur. Et puis ensuite j'aime beaucoup aussi un auteur que j'ai découvert il y a quelques années, qui est Donald Ray Pollock, qui a écrit notamment Le Diable tout le temps, c'est pareil, qui dépeint une société américaine des années on va dire 70-80, et qui est vraiment formidable.
Est-ce qu'il est aussi facile d'accorder la même place à différents sujets au cinéma qu'en littérature?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans la littérature, c'est le gros avantage, c'est qu'on n'a pas de contraintes. On n'est pas limité en termes de pages, on n'est pas limité en termes de caractères. On peut vraiment développer complètement ses idées, quitte à rogner, à revenir dessus après. On est très libre. Je pense qu'on a un impératif dramaturgique dans le film qui fait que si on commence à trop partir dans des explications qui sont trop longues, on risque de perdre le spectateur. C'est un peu vrai aussi dans le livre. Si j'avais vraiment développé les idées philosophiques de Mitch jusqu'au bout, en partant à l'origine, donc de Boès jusqu'à aujourd'hui, enfin le bouquin il aurait fait 600 pages. Donc on est obligé quand même dans les deux cas, on est obligé d'adapter le propos à celui à qui on l'adresse, que ce soit le spectateur ou le lecteur.
Pour conclure, alors on a vu que Le Radiateur touchait plutôt des thèmes sociaux. Hein. Est-ce qu'on peut dire que écrire, notamment écrire Le Radiateur, en adoptant un style à la fois littéraire et parlé, en évoquant des personnages marginalisés, est-ce qu'on peut dire qu'écrire est un acte politique?
Je ne sais pas. Je ne l'ai pas fait en fait en pensant à un acte politique. Je l'ai fait et je pense que beaucoup d'auteurs le font. Parce que c'est un besoin. Comme je l'expliquais, comme on le disait tout à l'heure, à la base, je pouvais exprimer mes idées grâce à la musique, grâce au death metal en écrivant des lyrics. Quand j'ai plus cette possibilité, je sentais bien qu'il y avait comme une mauvaise, comme de la bile qui remuait en moi, qui devait sortir. Donc il fallait que ça sorte. Et en ça, l'écriture s'est révélée la solution. Est-ce que ça en fait un acte politique ? C'est possible. En tout cas, ce n'était pas le but que je recherchais. Ce qui est certain, c'est que l'écriture, qu'on soit édité ou non d'ailleurs, elle est l'expression de l'état d'une société à un moment donné. Elle est la description de l'état d'une société à un moment donné. Et l'expression d'un sentiment, que ce soit... Alors, généralement, c'est plutôt d'un malaise. Mais voilà, l'expression d'un décalage, d'un malaise qu'on peut ressentir. Donc oui, si, quelque part, on peut dire que l'écriture est un acte politique, si c'est vrai. on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit le loup-garou Picard. Un petit coup de main à la technique de Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, et bien sûr parler de Léo Manien à l'architecture sonore de l'ensemble. Salut les gens, à la prochaine.